Béatrice Stivenard représente en région Hauts-de-France la Fondation pour la recherche médicale. Bénévole dans le cadre de son comité, elle met en œuvre des actions de collecte et de développement de la notoriété de la fédération auprès des réseaux locaux en vue de conclure des partenariats.
Alors, Béatrice Stivenard, je suis la déléguée régionale du comité pour la Fondation pour la recherche médicale des Hauts-de-France.
Voilà, donc la Fondation pour la recherche médicale, c'est une fondation très large en France qui a de grandes activités et puis des missions importantes. Comment on devient, pourquoi aussi on devient délégué de ce genre de structure ?
Eh bien, il y a 14 comités dans toute la France et j'avais envie de donner de mon temps pour justement faire connaître la fondation et trouver des fonds. La fondation s'occupe de toutes les pathologies. C'est ça le gros avantage, c'est que les chercheurs cherchent sur toutes les pathologies, aussi bien le cancer, sur toutes les maladies, les virus.
Dans tous ces types de maladies, certains sont plus évocateurs dans l'esprit des personnes. Est-ce que la recherche est aidée en fonction d'une sorte d'applaudimètre ou est-ce qu'il y a une rationalité et une répartition harmonieuse, on va dire, des financements par rapport à cette recherche en France, selon les secteurs d'activité?
Alors, il y a 32 chercheurs qui font partie du comité scientifique et qui vérifient et qui regardent tous les projets des chercheurs. Et selon ils cherchent, si vous voulez, puis ils donnent à telle ou telle équipe de recherche selon la pathologie.
Donc chaque laboratoire, hein, puisqu'il y a beaucoup de laboratoires qui sont engagés, hein, à sa spécialité, est-ce qu'il existe des spécialités qui ne sont pas traitées par votre fondation ?
On traite toutes les pathologies.
Est-ce que vous jugez que la France est bien placée dans la recherche et de l'aide à la recherche médicale en général ?
Oui, et surtout Lille. Vous avez quelques centres comme Lille, Toulouse, Lyon, qui sont des précurseurs dans pas mal de domaines.
Est-ce que Lille, par exemple, a une spécialité par rapport à Toulouse ou autre ? Est-ce qu'il y a des pôles, on va dire, un peu différents avec des spécificités ?
Non. Neurologie, cancer, diabète, obésité, ils traitent à peu près à l'Institut Pasteur, au CNRS, au CHU. Ils traitent toutes les pathologies.
Tous ces instituts, ces laboratoires de recherche, est-ce qu'ils se concertent ? Est-ce qu'ils s'entendent bien ? Je ne sais pas, j'imagine que quand il y a des financements, chacun essaye un peu de tirer la couverture à lui ?
Non. De toute façon, tout est publié sur des revues professionnelles, donc chacun voit un petit peu l'évolution et profite de cette évolution des recherches. Donc il n'y a pas du tout de compétition, on va dire, ni de concurrence.
Quels sont les domaines où on a encore du mal, pas à chercher forcément, mais à trouver ?
Alors, c'est les virus émergents, le Covid et tous les cancers qui sont rares, comme le pancréas. Ça, c'est encore un cancer, malheureusement, un crabe, où il y a énormément de décès.
Toutes ces maladies dont vous parlez, hein, notamment les cancers, ça effraie les gens. Est-ce que pour les donateurs, il faut avoir déjà une certaine sensibilisation à ces maladies du fait de la maladie d'un proche ou personnel d'ailleurs, hein, pour commencer à s'intéresser à cet appel aux dons que vous faites, hein?
Non. Vous avez tout azimut. Et d'ailleurs, nous avons en 2024 à peu près 2% de plus de dons par rapport aux autres années. Non, tout le monde est sensibilisé. Je pense que la santé, c'est l'affaire de tous. Et tout le monde est sensible à être en bonne santé.
Nous sommes toujours avec Béatrice Stivenard, représentant le comité régional Hauts-de-France de la Fondation pour la recherche médicale, avec qui nous allons maintenant aborder le sujet de la prévention.
La prévention, ce qui est un peu dommage, c'est que la France est un beau pays et on peut faire beaucoup d'examens en prévention. Et malheureusement, quand on voit pour la mammographie, c'est une femme sur deux qui fait ce genre d'examen. C'est dommage parce qu'un cancer qui est pris très vite a beaucoup de chances de guérir.
Pourtant, il y a des sollicitations, on va dire, il y a des sensibilisations, il y a des courriers directs qui sont envoyés à toutes les femmes hein, qui sont concernées.
Oui, oui, oui. Mais bon, est-ce qu'elles ont peur? Elles se disent, bon, j'ai pas mal, donc je ne vais pas faire un examen au cas où on trouverait quelque chose. On ne sait pas, mais bon, c'est vrai que la prévention existe en France, on a cette chance-là, mais on ne profite pas assez.
Ces personnes qui hésitent sont peut-être effrayées par pas seulement la technique de l'examen, mais par les conséquences, les résultats tout au moins. Et après, elles imaginent que si elles ont une maladie grave, elles vont entrer dans un cycle un peu infernal aussi.
Tout à fait. C'est un peu, peut-être pour ça que bon, elles préfèrent faire l'autruche et puis ne pas se faire diagnostiquer. C'est regrettable.
Vu les campagnes de communication quand même qui existent, hein, elles sont assez nombreuses, on devrait quand même convaincre, notamment en partant peut-être des jeunes femmes.
Ben non, ça n'évolue pas. Au contraire, je trouve que la prévention, depuis quelques années, il y en a beaucoup moins. Avant, on était à 50-60% des femmes qui se faisaient diagnostiquer. Maintenant, c'est 43-44%. Donc il y a quand même, alors que le cancer du sein, il y en a je vais pas dire de plus en plus, mais quand même. Et on peut le guérir très facilement.
Quand on prend le système Amélie, hein, enfin, vous connaissez, hein, Amélie incite vraiment. Hein.
Oui, 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 on reçoit une convocation tous les deux ans, à partir d'un certain âge. Et bon, je ne comprends pas, mais bon. C'est dommage parce que bon, on a un formidable service de santé en France et tout le monde n'a pas la chance. Vous allez dans d'autres pays comme ne serait-ce le Canada ou les États-Unis, il n'y a pas ce genre de service, quoi. Donc c'est regrettable.
Non seulement il n'y a pas ce service, ou s'il y en a, il est moins remboursé. Enfin, c'est compliqué parfois de se soigner dans certains pays.
Oui, tout à fait. Ma fille est partie faire des études au Canada. Et elle me disait que c'était incroyable, quoi. S'ils n'avaient pas de mutuelle, il n'y a pas de sécurité sociale, donc c'est un genre de mutuelle. Et elle me dit que c'est très peu remboursé, sauf pour des interventions chirurgicales. Mais si vous avez la grippe ou un rhume, des médicaments, ça ne l'est pas.
Alors, dans notre région, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire pour présenter les Hauts-de-France dans ce domaine de la recherche?
On a de très très bonnes équipes. Vous avez des équipes formidables à Lille, hein, qui sont d'ailleurs récompensées par des prix régulièrement.
On souhaite que ça continue, parce que quand on voit un peu les moyens qui baissent, qui sont annoncés dans plein de domaines, hein, avec les problèmes de dette de l'État et puis de guerre, etc., on souhaite bien sûr que la recherche continue à être soutenue et bien sûr, vous faites appel à la population.
À la générosité du public, effectivement. On a reçu à peu près 2023, parce que je n'ai pas les chiffres 2024, 49 millions sur 396 projets ont été financés. Donc c'est quand même très très intéressant, quoi.
Alors j'ai pu voir sur le site, hein, on rappellera le nom du site, mais j'ai pu voir la destination, chaque laboratoire, les gens qui en sont responsables, c'est assez détaillé. Hein. Donc c'est quand même intéressant d'avoir une idée de la structuration et puis d'où atterrissent ces financements.
Oui. Il y a beaucoup de transparence, hein. De toute façon, nous sommes reconnus la fondation d'utilité publique. Et nous avons aussi, nous sommes labellisés pour le don en confiance. Alors c'est un organisme d'agrément et de contrôle des associations qui ont justement de l'argent, qui profitent de la générosité du public. Donc tout est transparent. Si vous faites un don, vous pouvez savoir exactement où va votre don.
Donc le site, on peut peut-être le rappeler.
Alors c'est le don en confiance et c'est la Fondation pour la recherche médicale qui est d'utilité publique et labellisée don de confiance. Donc cet organisme, vous pouvez voir où va votre don. Fondation pour la recherche médicale, FRM.
Voilà, donc en dehors des dons qu'on peut faire à partir du site web, bien sûr, on peut aussi participer à des animations, à des sensibilisations, donc en tant que bénévole, bien sûr.
Oui, on peut créer des événements. C'est aussi bien des matchs de foot, de basket, des courses cyclistes, faire une chorale. L'essentiel, c'est de récolter de l'argent et puis pour pouvoir soutenir la recherche. C'est ça qui est le plus important.
Ces événements que vous organisez en région, on peut peut-être en donner quelques exemples ?
Oui, vous avez le Ch'ti Tour des Porsche. Alors ça, c'est pas moi qui l'organise, mais ce sont des partenaires. C'est 400 propriétaires de Porsche qui vont à Ardelot et qui font deux rallyes. Donc, ils payent leur place et puis ils payent aussi pour le repas. Donc, ils participent, ils donnent une partie de leurs bénéfices. Je vais avoir aussi à Cambrai une manifestation. Alors, c'est du football, c'est des vétérans. C'est un repas, barbecue, c'est une tombola avec la participation des commerçants, justement. Ce sont des associations qui veulent s'investir. Et puis, vous avez aussi pas mal de jeunes aussi qui font des événements. Ça peut être une pièce de théâtre, donc ils jouent, et la recette, ils la donnent pour la fondation. Ça peut être un orchestre, enfin tout.
Il y a un programme qui est publié ?
Je vais le commencer, puisque moi j'ai repris il y a 2 ans, hein, puisque avant j'étais en région centre, à Orléans, je m'en occupais. Et là, j'ai beaucoup de choses à faire en tant que bénévole, donc je vais faire un programme. Et sur la fondation, de toute façon, sur le site, vous pouvez voir dans chaque région ce qui se passe.
Merci à Béatrice Stivenard pour ses explications et son engagement. Pour soutenir et vous informer sur la recherche médicale, vous pouvez vous rendre sur le site frm.fr. C'était un sujet de René Lavergne de Radio Campus Lille.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Ariel, écoute-moi.
Quand je suis à Ronchin, j'écoute le 106,6. Et quand je suis...
Sous l'océan.
J'écoute Radio Campus sur le www.campuslille.com.
Je sais que le jour viendra où le vent se lèvera et nous serons des... Aujourd'hui c'est moi qui tombe, je rejoins l'armée des ombres, mais demain je reviendrai. J'irai danser sur vos tombes, juste après la pluie qui tombe, l'herbe viendra repousser. Vous vous souviendrez de moi. Dernier, vous vous souviendrez du jour où vous avez...
Le bénévolat est considéré comme un outil puissant pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes au chômage ou éloignées du marché du travail. Il permet d'améliorer l'estime de soi, de développer des compétences variées, d'élargir son réseau et d'explorer de nouveaux secteurs d'activité. La Maison des associations de Tourcoing, en partenariat avec celle de Roubaix, a organisé un colloque bénévolat levier d'insertion vers l'emploi dans les locaux du club EIC à Tourcoing dans le cadre d'un projet européen. Rencontre avec Denis Daluin, directeur de la Maison des associations de Tourcoing.
Alors aujourd'hui se déroule le colloque de lancement de notre projet Interreg franco-belge qui s'appelle BELIEVE. BELIEVE, c'est l'acronyme de bénévolat comme levier d'insertion vers l'emploi. Donc c'est un événement où on réunit les partenaires du projet, hein, dont la MDA de Tourcoing, la MDA de Roubaix, la MDA de Charleroi et la MDA de Sambre-et-Meuse, à Chimay, et également un opérateur de l'insertion qui s'appelle Objectif Emploi. On est donc 5 opérateurs sur ce projet BELIEVE, et aujourd'hui c'est le grand lancement où on réunit nos partenaires, France Travail du côté français, le Forum du côté belge, les CCAS du côté français, les CPAS du côté belge, des opérateurs d'insertion et des associations qui partagent avec nous la conviction que le bénévolat peut être un levier vers une meilleure employabilité.
C'était la question centrale.
Voilà, ça c'est la question centrale, c'est comment des compétences acquises dans le cadre d'expériences bénévoles peuvent servir à des personnes éloignées de l'emploi pour se remettre en démarche d'insertion ou valoriser ou développer des compétences liées à leur expérience bénévole. Des compétences de... Alors c'est aussi reprendre confiance en soi, c'est aussi se sentir utile, et ensuite développer la capacité de travailler en équipe, de prendre la parole en public, enfin des compétences transversales comme ça, d'être à l'heure à des rendez-vous. Et donc le bénévolat, ça permet une expérience plus douce qu'un stage en entreprise, par exemple. Et donc tout l'enjeu de ce projet, c'est de se former les associations à bien accueillir ces publics en insertion et donner envie à ces publics en insertion de faire des expériences bénévoles.
Et d'où vient ce projet ?
Alors ce projet, c'est la suite d'un précédent projet Interreg qui s'appelait RECAPAS, Reconnaissance et Qualification des Parcours Associatifs. Pendant 4 ans, avec la MDA de Roubaix, la MDA de Tourcoing, Charleroi notamment, et Interphase, on a travaillé sur le fait que des expériences bénévoles, eh bien, ça développe des compétences. Et que parfois, on les conscientise pas. Quand on est bénévole, on marque en bas de CV bénévole au club de foot. Et si ça tombe, on est trésorier, on gère une caisse, on gère des stocks. Et c'est plein de compétences intéressantes. Et donc, l'idée de RECAPAS, c'était pas dans l'objectif d'insertion, hein, ça pouvait être juste aussi dans le cadre d'un épanouissement personnel, c'était de mettre en valeur, de comprendre, de conscientiser qu'une expérience bénévole, eh bien, ça développait des compétences. Donc, c'est la suite un peu de ce projet.
Dans le monde associatif, il y a une vraie crise du bénévolat.
Alors c'est ça. Quand on demande à une association de quoi elle a besoin, la première réponse en général, c'est on manque de bénévoles. Et donc c'est aussi pour les maisons des associations un sujet important, comment répondre à ce besoin des associations. Et là, l'objet de BELIEVE, c'est aussi de développer chez les associations leur capacité d'accueillir de nouveaux bénévoles. Parce que parfois, ça arrive que des associations n'ont pas assez de bénévoles, se plaignent de ne pas avoir assez de bénévoles, mais qu'en réalité, on constate, en travaillant avec elles, qu'elles n'accueillent pas bien les bénévoles, qu'elles n'ont rien mis en place pour accueillir de nouveaux bénévoles, qu'elles ont des préjugés sur les jeunes, sur les retraités, sur les... Et donc, c'est aussi leur montrer qu'il y a des outils qui existent, qu'il y a des processus à mettre en place pour bien accueillir les bénévoles et se donner la possibilité d'avoir de nouveaux bénévoles.
Si on a besoin d'informations sur la Maison des associations, où est-ce qu'on peut trouver ça ?
Alors, on a un site internet www.mdatourcoing.fr. On a des réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram et LinkedIn. Et puis sur place, évidemment, puisqu'on est sur des métiers de contact, vous pouvez venir au 100 rue de Lille à Tourcoing, où vous serez toujours bien accueillis pour vous former ou pour vous expliquer ce projet. Et puis on est en lien avec la MDA de Roubaix qui fait la même chose sur la place de la Liberté à Roubaix.
Philippe, chargé de mission, accompagnement des associations de la Maison des associations de Roubaix.
Aujourd'hui, c'est le lancement d'un projet qui met en avant la capacité de l'engagement bénévole à amener les gens vers une insertion socio-professionnelle. Donc emploi notamment, mais pas seulement.
Projet européen.
C'est ça, européen, transfrontalier, c'est-à-dire que le but c'est qu'il y ait des rencontres de chaque côté de la frontière, qu'il y ait des échanges de pratiques, qu'il y ait des échanges d'expériences et qu'il y ait une mise en commun des capacités des uns et des autres pour cet objectif de se dire, quelqu'un qui s'engage volontairement, et j'insiste sur le terme, et les cinq opérateurs insistent sur le terme, qui s'engage volontairement, ça a un impact extrêmement positif sur tous les parcours d'insertion que nous on peut voir, et l'idée c'est de valoriser, de formaliser ça pour l'ensemble des opérateurs de l'insertion.
Ce matin, on a parlé beaucoup des bénévoles.
Ben oui, parce que c'est la base. L'engagement, il est forcément bénévole, des deux côtés de la frontière. Bénévole, ça veut dire quoi ? Il n'y a pas de contrepartie financière. Pourquoi les gens s'engagent bénévolement ? C'est dans cette idée-là, du pourquoi et du comment, où on visualise, nous, et on concrétise le fait que dans ce pourquoi la personne elle met en place et en avant des compétences, un état d'esprit, une manière de voir les choses qui vont l'aider dans la démarche d'insertion socio-professionnelle. Et on a des exemples chez tous les opérateurs, même si le projet là, il a démarré cette année, on a des exemples depuis des années dans toutes les associations de parcours qui vont dans ce sens-là. Donc on est tous convaincus et c'est ce qu'on essaye de montrer déjà aujourd'hui sur le projet qui va nous amener pendant 4 ans sur ces objectifs-là.
Est-ce qu'on est dans une démarche d'accompagnement ?
Alors, il y a une double démarche d'accompagnement en fait, parce que là on parlait des bénévoles et des parcours d'insertion, donc le plus logique c'est l'accompagnement des personnes qui ont envie de trouver un bénévolat qui leur convient, parce qu'on ne met pas en place les mêmes choses. On a l'exemple des jeunes qui sont à l'école, qui des fois sont passionnés de foot, de théâtre, vont retenir des choses, on se dit mais mince, retiens tes leçons de la même façon. Quand on est passionné, quand on a envie, quand on est mobilisé naturellement, c'est plus facile de travailler l'accompagnement des personnes pour trouver l'engagement qui va leur permettre de se révéler. Mais à côté de ça, il y a l'accompagnement des associations, parce que accueillir les gens, tout le monde ne sait pas forcément très bien faire. Ou s'ils le font bien, ils ne savent pas toujours expliquer pourquoi c'est bien fait chez eux. Donc il y a l'accompagnement des associations pour leur montrer ce qu'elles savent déjà bien faire et éventuellement faire en sorte qu'on améliore, parce qu'il y a des publics qui vont être très éloignés de l'emploi ou avec des freins périphériques importants. Il y a aussi cet accompagnement-là de dire personne ne vaut zéro, personne. Par contre, il y a un cadre qu'il faut mettre.
Si on a besoin d'informations sur votre association, où est-ce qu'on peut trouver ça ?
Alors tout simplement chez nous, à la Maison des associations de Roubaix, 24 Place de la Liberté.
Yannick Kabuka, directeur de l'association Objectif Emploi de Tourcoing.
Je viens apporter un témoignage de la réalité de terrain en ce qui concerne l'apport du bénévolat dans le cursus professionnel d'une personne. Nous sommes sur un projet européen qui s'est mis en place en 2024, l'année dernière, et qui a pour objectif de valoriser les bénévolats dans le cadre de l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, éloignés de l'emploi justement.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre participation dans ce projet ?
Alors, notre participation en tant qu'acteur de l'insertion pro consiste à venir apporter notre manière de faire, nos outils, et surtout aussi repérer ces publics-là qui peuvent venir faire du bénévolat pour trouver leur compte en fait, dans le cadre de leur démarche d'emploi.
Est-ce que c'est une démarche d'accompagnement ?
Ici, pas vraiment l'accompagnement comme on le fait classiquement. Ici, l'accompagnement, on va le faire avec les autres acteurs du bénévolat qui sont les maisons de l'emploi, à la fois de France et aussi de Belgique, quoi, en fait.
Il y a tout un tas de partenaires qui sont associés à cette démarche.
Oui, on a des partenaires, comme on le disait tout à l'heure, des partenaires directs non financiers, mais on a aussi des partenaires, je dirais, associés. Et tout l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi, quoi. Mais aussi des partenaires aussi associés qui œuvrent dans le cadre des bénévolats.
Aujourd'hui, on dit qu'il y a une crise du bénévolat. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je peux dire oui, mais aussi en même temps non. Oui, dans le sens où dans des structures, je dirais, très organisées, qui sont exigeantes de la qualité des bénévolats, oui, là, il y a des crises, par exemple, pour être administrateur au conseil d'administration d'une association. Et surtout, quand vous recherchez des trésoriers, c'est un peu compliqué, parce que ça touche à l'argent, ça touche à des responsabilités. Là, il y a une vraie crise. Par contre, le bénévolat aussi, je dirais, est souvent demandé par beaucoup de personnes qui sont chez elles, par exemple les retraités, ou alors certains demandeurs d'emploi qui ont envie de démarrer par quelque chose, mais qui se voient un peu bloqués, hein, à la fois par la méconnaissance, par le manque d'informations, de ce qui est proposé.
Mais c'est vrai que le bénévolat, ça peut aussi servir à ajouter une ligne sur son CV.
Ah oui, mais c'est l'objet, hein, c'est l'objet de ce projet. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont besoin de ça, justement, pour ajouter une ligne. Et aussi, très important, c'est ce que je disais tout à l'heure, reprendre la dynamique d'action. Ça, c'est très important parce que il y a aujourd'hui certaines personnes qui sont demandeurs d'emploi, qui ne se retrouvent plus, qui ne sont plus valorisées parce que, et moi, j'en vois beaucoup qui disent, ben oui, je me sens inutile, quoi, parce que je ne fais rien. Et pour ces personnes-là, le bénévolat peut servir de, vraiment de démarrage, de tremplin, de levier, de beaucoup de choses derrière. Ils ne connaissent pas la bonne porte qu'il faut aller frapper. Voilà, c'est le but du jeu aujourd'hui aussi.
Et pour certaines associations, c'est aussi une mise à l'épreuve.
Oui, justement, parce qu'il y a aussi un détail qu'on a tendance à oublier. Le milieu associatif, quand même, c'est 12 à 13% d'emplois dans le Hauts-de-France. Ça a un certain poids. Et donc, pour beaucoup, moi, je suis directeur, je recrute beaucoup de personnes qui passent chez moi, soit en bénévole ou en stagiaire. Donc, c'est aussi l'un des moyens de repérer des bons candidats, quoi, des bons profils.
Donc, vous, votre participation à ce projet, c'est le repérage de candidats?
C'est plus amener notre expérience dans l'accompagnement à l'emploi, les demandeurs d'emploi, très éloigné de l'emploi parce que c'est ce qui avait été demandé aux anciens partenaires qui étaient autour de ces projets. L'Europe leur avait demandé de travailler beaucoup plus sur l'insertion professionnelle des gens, quoi, au fait, qui font le bénévolat.
Et si on a besoin d'informations sur votre association, où est-ce qu'on peut trouver ça?
On a un site internet, hein, Objectif Emploi, il suffit de taper et vous aurez toutes les informations.
Kevin Barr, militant associatif tourquennois.
Alors, l'intervention de ce matin, j'entendais beaucoup qui parlaient de l'employabilité autour du bénévolat. Et en fait, j'expliquais que, tout simplement, moi, j'ai essayé de trouver du boulot. Et grâce au bénévolat, j'y ai trouvé. Pendant un mois, j'ai travaillé dans un garage. Et en fait, ça s'est passé très simplement. J'ai été à la MDA, donc faire mon rôle d'administrateur, comme tous les jours. Et je suis tombé sur un monsieur qui me connaît bien, qui m'a dit qu'il y a un garage qui cherchait quelqu'un pour faire un peu à mi-temps. Et donc j'ai essayé pendant un mois. Donc je disais ce matin que c'était grâce au bénévolat que j'ai pu trouver un petit boulot pendant un mois, quoi.
Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut valoriser dans son CV.
Alors oui, j'ai aussi parlé du CV parce que c'est important, parce que quand j'ai été me présenter pour donner le CV, ils ont vu que j'ai fait Sérimania, ils ont vu que j'étais administrateur à la MDA, donc ils ont vu les compétences que quelqu'un pouvait avoir. Moi, j'incite vraiment les jeunes qui font du bénévolat à mettre dans leur CV tout ce qu'on peut faire, quoi.
Nous étions dans les locaux du club EIC à Tourcoing pour le colloque Bénévolat, levier d'insertion vers l'emploi. Reportage réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Salut, c'est les Chasse-Patates sur Radio Campus. On vous donne rendez-vous le 4 juillet au Grand Sud pour le Grand Bal des cyclistes, la veille du départ du Tour de France.
Parti avec le sourire.
Venez découvrir le tout nouveau spectacle des Chasse-Patates qui vous emmèneront tutoyer les sommets avec des invités et des surprises plein la musette.
J'ai le moral dans les soquettes.
Plus d'infos sur les réseaux sociaux et sur le site du Taillet, letaillierproduction.com et sur ticketmaster.fr.
This rocks the system, you can see them come to patch up the holes now. And they're always pushing policies that work out right for ruling class goals now. And if
heads off to Santa Monica to spend some time consulting for Rand Now. Where they tried to dream up ways to hide the rising cost of bombing Vietnam Now. But they'll be gone, gone, gone when the people take their power away. They spend their time just shooting the bull now. They give a speech on hunger, but they do it while their bellies are full now. And they say it's getting better, but it looks like they're just pulling the wool now. And they'll be gone, gone, gone when the workers take their power away. They'll be gone, gone, gone when the workers take their power away.
Ça fait pas mal d'hier qu'on attend des demain. Ça fait pas mal de temps quand on regarde en arrière. Qui nous promettent la lune, les experts, les malins, tous les fins, les finaux qui dirigent la terre. La mondialisation, la globalisation, là qu'on n'entend plus que ça, jusque dans notre village. Ça devait faire débarquer le bonheur dans nos maisons, après juste quelques sursauts, quelques réglages. Eh bien, on va rien venir avec Marcel et Roger, l'un qui était cadre et l'autre petit paysan moyen, qu'on a restructuré, fusionné, redéployé, et qui se retrouve égaux maintenant qu'ils sont plus rien. Marcel dit que sûrement là on est mal placé, qu'ailleurs il y a du soleil, des gens heureux qui rient. Mais oui, il a vu ça l'autre jour à la télé. Mais pourquoi ils ont fermé l'école et l'épicerie? Il dit que c'est dérisoire ce qui arrive dans un patelin, Marcel, qu'il faut tout voir à l'échelle planétaire, et qu'il y a des pays où les exclus vont bien, où les mecs sous-payés, ils ont la pêche d'enfer, où le quart-monde y bord la vie à belles dents. Comment? Il a plus de dents, c'est ce que je pensais, c'est clair. Marcel, il pète les plombs depuis qu'il a plus ses champs, et qu'on a transformé ses vaches en hamburgers. Roger, il dit plus rien, ça fait 10 ans qu'il chôme, qu'il suit des séminaires, des formations, des stages. À poursuivre du vent, il ressemble à un fantôme. À poney chez Picrate, il fait 10 fois son âge. C'est que du pipeau, tout ça, montrez-moi l'embellie. Les rares ont du travail doivent se tuer au boulot. D'accord, ils ont des portables web qui les relient, mais pourquoi ils ont fermé la poste et le bistrot? L'autre jour, j'entendais un monsieur de mon cul, ou de mes couilles qui me gratte, ou de n'importe quoi, dire dans mon transistor, arrogant, convaincu, sa mondialisation, ça crée des emplois. Ouais, putain, j'ai vu rouge, j'aurais voulu la voir, là juste en face de moi, pour lui demander où, pour lui demander quand, et répondre au connard. T'as vu qu'on embauchait, en tout cas pas chez nous. Peut-être qu'il parlait de ses enfants qu'on enchaîne là-bas dans le tiers-monde, dans ces pays si tristes, qui bossent 12 heures par jour pour $1 à peine, tandis que leurs frangines se vendent à nos touristes. Là, leur projet retour 2 siècles en arrière, et pas qu'au Bangladesh, tu parles jusqu'ici. Chacun pour soi, pour tous, de minables salaires. Mais pourquoi ont fermé l'usine et la Syrie? Et comme ils parlent fort dans la rue, dans le journal, on finirait par croire au fond qu'ils ont raison. Que les pauvres deviennent plus pauvres, déjà ça devient banal. Y a pas un autre chemin, je pose la question. Verrez bientôt, ça sera l'Amérique par là. D'un côté des ghettos bien crades et puis bien gros. Quelques prisons tout près pour ceux qui acceptent pas. Puis un tout petit quartier de riches gardé par des Rambos. L'or me dit plus que demain, on va raser gratis. On nous l'a déjà fait, le coup de l'avenir radieux. Et des lendemains qui chantent au bon vieux temps jadis. Là qu'aujourd'hui, ça s'annonce pas mieux. Non, je ne déconne pas, regardez rien que chez nous. Dans ce petit bled qui était blanc, suisse, quoi normal. Tout vient tellement privé qu'on sera privé de tout. La preuve, ils vont fermer la gare et l'hôpital. Ça fait pas mal d'hier qu'on attend des demain.
C'est une maison pour créer de la rencontre, du lien entre les gens et... Moi, ça m'a permis de rebondir, de me remettre au tricot.
Il y a des spécialistes tous autour de la personne, de la famille. Que ce soit de l'écoute, la psychologue, les relations.
La maison Bartimée est un tiers-lieu basé dans le quartier de la Victoire à Compiègne, dédié aux familles et aux liens sociaux. C'est un lieu vivant d'accueil, de rencontres, d'écoute et d'accompagnement au service de chaque personne qui souhaite prendre soin de ses relations affectives. Anne-France Chassin, maîtresse de maison salariée de l'association La Maison Bartimée, nous explique la genèse de ce projet.
La Maison Bartimée a été créée sur une idée du diocèse de Beauvais. Aujourd'hui, c'est une association loi 1901 à vocation culturelle, acteur de lien social pour créer du lien et prendre soin des relations affectives. Et aujourd'hui, c'est une association qui accueille absolument tout le monde sans poser de questions sur les origines, la religion, l'état de vie, la situation. L'objectif, c'est que tout le monde se sente bien et se sente accueilli tel qu'il est.
Justement, qui vient chez vous ?
Chez nous vient des curieux qui poussent la porte pour voir ce qui se passe ici. Des gens qui savent que c'est un lieu où ils vont avoir une oreille attentive. Des gens qui ont envie de boire un café. Des jeunes qui viennent après les cours le vendredi pour jouer. Des gens qui ont envie de faire une activité pour être moins seuls. Des gens qui viennent pour se faire aider, accompagner sur des difficultés liées aux relations. Et des gens qui s'inscrivent à des ateliers pour travailler des points un peu sensibles et difficiles de leur vie relationnelle.
En quoi la position stratégique de la Maison Bartimée, je rappelle qu'on est au quartier de la Victoire à Compiègne, est-elle stratégique ?
Ce qui est intéressant dans l'emplacement, c'est qu'on est sur un rond-point entre deux quartiers, un quartier un peu plus cossu des Sablons et un quartier plus populaire de la Victoire. Et l'objectif, c'est que dans ce bistrot, des mondes se rencontrent. Et c'est pour moi une grande satisfaction quand je vois des mamans des écoles différentes qui viennent se poser après les cours. Les enfants se retrouvent tous autour du baby-foot et les mamans se mettent à discuter autour de leur café. En fait, c'est ce qu'on essaye de vivre. C'est un lieu de rencontre où justement on sort de nos a priori, on a une occasion de sortir de nos a priori pour rencontrer l'autre et justement savoir qui il est un peu plus. C'est un quartier assez mixte. On aime beaucoup l'événement de la fête des voisins. On l'a vécu l'année dernière et c'est un moment qui nous a vraiment permis de rassembler largement devant la maison et dans la maison des gens qui ne se côtoient pas, qui ne se croisent pas. Et en fait, toute la richesse aujourd'hui, c'est de se rencontrer.
Pourquoi la maison s'appelle la maison Bartimée ?
Bartimée, c'est une personne, c'est une page de la Bible. C'est une personne qui était aveugle, qui a retrouvé la vue et qui, en retrouvant la vue, a retrouvé sa dignité.
Comment, Anne-France, la maison est-elle gérée ?
Alors, elle est gérée par, comme toute association, avec une présidente, un président, un conseil d'administration. Et on fonctionne aussi avec trois commissions. La commission cœur de mission qui gère tout l'aspect professionnel des consultations et des ateliers. La commission vie de la maison qui organise toutes les animations et la commission finance.
Pouvez-vous nous présenter l'équipe de professionnels qui accompagne, on va dire, sur la vie affective des personnes qui viennent ici ?
Nous avons 6 professionnels qui consultent ici à la Maison Bartimée. Ces professionnels ont toutes leur cabinet à l'extérieur. Elles sont bien sûr certifiées, elles sont supervisées, elles ont de l'expérience. Et elles ont décidé qu'une journée à peu près de leur semaine serait dédiée à des consultations à la Maison Bartimée. Donc nous avons 2 conseillères conjugales et familiales qui viennent de la région parisienne. Nous avons 2 psychologues, une thérapeute ICV qui est aussi somatothérapeute et une médiatrice familiale.
Vous, Anne-France, quel est votre rôle à la Maison Bartimée ?
Alors, mon rôle, c'est de coordonner un petit peu ce qui se vit dans la maison pour que ça se passe bien, qu'il y ait une fluidité, que l'accueil soit agréable. Donc, je coordonne l'équipe de tisseurs de liens qui sont bien engagés dans le projet. Je mets en place des formations, un suivi. On a une psychologue qui vient 2 fois ou 3 fois par an pour relire les événements qui se vivent à l'accueil, parce que ce n'est pas un accueil anodin. On accueille chaque personne de manière inconditionnelle. Donc je gère toute cette équipe de formidables de bénévoles que je remercie au passage. Nous avons 63 bénévoles dans la maison, dont un tiers sont sur l'accueil et l'animation. Je gère la partie logistique, alors je suis aidée de Dominica hein, sur tout ce qui est stock, voilà. Je gère la commission qui s'occupe des animations, je participe à la commission cœur de mission.
Vous écoutez actuellement l'interview d'Anne-France Chassin, maîtresse de maison salariée de l'association La Maison Bartimée dans le quartier de la Victoire à Compiègne. Vous parliez à l'instant des tisseurs de liens. Est-ce que vous pouvez les présenter et dire quelles sont leurs missions ?
Les tisseurs de liens, donc, ils sont tous bénévoles. Ils ont accepté de donner du temps de manière assez régulière pour être à l'accueil de la maison. La position d'accueil est essentielle parce que c'est le premier visage de la maison que les gens vont rencontrer, le premier sourire. Ils renseignent sur ce qui se vit à la maison, ils servent le café, ils se posent dans le bistrot avec les personnes qui viennent. Ça, c'est pour les bénévoles de l'accueil. Et puis, les bénévoles des animations partagent une passion, un talent, comme la pâtisserie. On a un jeune retraité, la Emery, qui vient le mercredi pour faire du pain avec les personnes qui veulent. Il y a celles qui tricotent, font du crochet, du patchwork. Et là, le mardi, il y a un gros groupe qui vient faire de belles choses ensemble dans un esprit bienveillant. Et les tisseurs de liens sont garants du climat de la maison.
Pour 90% de la population, la vie de famille est une priorité. Pourtant, le constat est paradoxal puisque les chiffres des ruptures familiales sont croissants. Comment, Anne-France, vous expliquez ce paradoxe ?
Je ne sais pas si je saurais l'expliquer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, c'est un lieu qui, à terme, aimerait être un lieu de prévention des ruptures, dans le sens où on ne sait pas forcément aujourd'hui où se tourner quand ça va mal dans la famille. On ne sait pas qu'il y a des lieux, qu'il y a des professionnels qui sont spécialisés, formés et qui sont expérimentés, qui ont la distance nécessaire pour pouvoir accompagner, orienter, guider quand on traverse des moments difficiles. À terme, si ce lieu devenait un lieu de prévention des ruptures, c'est sa vocation, ce serait formidable. Mais c'est vraiment un lieu qui se veut un lieu ressource, c'est-à-dire qu'on peut frapper à la porte de la maison en disant « j'ai telle problématique », vous serez accueillis en toute confidentialité. La confidentialité est clé et nos tisseurs de liens, nos professionnels, enfin tout le monde vit cette confidentialité à l'égard de ce qui nous est confié. Et ce sera suivi et traité par des professionnels en fonction de votre problématique.
Vous êtes là pour traiter les conséquences à la fois sociales, psychologiques, éducatives, mais aussi financières.
Voilà, nos tarifs de consultation et d'atelier suivent un barème pour permettre au plus grand nombre de se faire accompagner, de se faire aider ou de participer à un atelier. Donc en fonction de votre quotient familial, vous pouvez rencontrer un thérapeute entre 18 et 65 euros.
Comment vous apprenez aux gens à mieux aimer et à mieux s'aimer ? Quel que soit leur âge, leur situation, leur mode de vie ou leur conviction religieuse. Comment vous procédez pour que le love soit mieux ?
Déjà, je pense que quand on entre dans cette maison, elle a été conçue de manière à ce que l'on s'y sente bien. C'est à la fois simple, mais il y a un sens de l'esthétique du beau. Les gens disent, c'est vraiment agréable chez vous, on s'y sent bien. Donc je pense que déjà ça, prendre soin de l'autre, c'est lui donner un cadre agréable, accueillant. C'est une première chose qui a beaucoup d'importance. Ensuite, on essaye de rester très bienveillant et à l'écoute de la personne qui vient. Et on essaye entre nous de véhiculer ce prendre soin, c'est-à-dire que avec les autres salariés de la maison, entre les bénévoles, on essaye tous de prendre soin les uns les autres. Le prendre soin, il est à tous les niveaux.
Existe-t-il des tiers-lieux de la même éthique que la maison Barthimé dans les Hauts-de-France ?
Je ne pense pas. Il y a sûrement des lieux formidables aussi, mais je ne connais pas de lieu qui regroupe à la fois un bistrot et un cœur de mission avec des ateliers sur des thématiques très variées pour travailler sur la famille et avoir des consultations.
Le 19 mars dernier, la maison Barthimé a soufflé ses deux bougies. Quel est le bilan de ces deux premières années ?
Le bilan est positif dans le sens où on a de plus en plus de personnes qui viennent pour les consultations. La participation aux ateliers est en forte hausse. Les animations fonctionnent bien. On sent que le bouche à oreille, les actions de communication fonctionnent et que la confiance est réelle envers ce que l'on propose. Donc c'est pour nous une source de satisfaction. Maintenant, il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cette maison. Donc on a encore des défis à relever, bien sûr. Les projets, alors l'idée, c'est d'être au plus près des problématiques que vivent nos contemporains. Voilà. D'être à l'écoute des besoins dans notre monde très connecté. Il y a beaucoup de souffrances liées aussi à cette connexion au virtuel chez les jeunes, chez les adultes. Voilà, on essaie d'être à l'écoute de toutes ces problématiques et on travaille à faire des propositions qui permettent d'accompagner sur ces difficultés.
Quelles sont les thématiques des ateliers que vous proposez, Anne-France ?
Elles sont diverses, elles s'adaptent à toutes les étapes de la vie. Ça peut être de l'aide à la parentalité avec un parcours parent d'ado, améliorer son estime de soi, des journées de rencontres pour préparer les enfants à la puberté, parents-enfants, père-fils, mère-fille, un parcours Teen Star pour les lycéens, des ateliers sur la communication, la résolution de conflits, le couple, la communication et on n'oublie pas les bébés avec le portage et le massage bébé. Et puis mieux se connaître avec l'Ennéagramme, un outil pour mieux se connaître, mieux aimer les autres et être plus à l'aise dans nos relations.
Il n'y a pas forcément que les gens de Compiègne qui viennent chez vous?
Non, pas du tout. Cette maison accueille des gens qui viennent de tous les villages autour, de Crépy-en-Valois bien sûr, mais bien au-delà. On couvre le territoire de l'Oise, mais on va aussi au-delà. Il y a des gens de région parisienne, même de Rennes, qui étaient venus à un de nos ateliers.
Merci à vous.
Merci Yann.
Alors, je m'appelle Domenica, je suis équatorienne et j'ai 26 ans et je suis en France depuis, ça va faire 12 ans, ici à la Maison Barthélemy, comme volontaire.
Comment vous l'avez connue?
Alors en fait, j'ai postulé pour faire un volontariat en France et par l'association qui s'appelle France Volontaire dans mon pays. Et je savais qu'il y avait une mission, qu'il cherchait des personnes un petit peu autour de la psychologie, l'éducation. Et du coup, moi, je suis psychologue et j'ai postulé. Et après, j'ai passé un entretien et tout. Et ils m'ont donné la mission de venir ici à Compiègne pour travailler à la Maison Barthélemy.
Comment vous la décririez, cette maison?
Vraiment, la Maison Barthélemy, je pense que c'est un endroit unique. Vraiment unique. J'ai jamais connu un endroit comme ça. Je pense que vraiment ici, il y a un cœur des missions déjà très important par rapport à toute la société, toutes les problématiques que nous, on en a déjà. Et moi, en tant que psychologue, et d'une personne aussi qui vient de l'Amérique latine, où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes avec la relation, déjà la sécurité et tout, et de me retrouver ici avec un partage unique aussi, et intergénérationnel. On parle beaucoup que la Maison Barthélemy est là pour soigner les relations familiales, mais c'est vrai que pour moi, ça m'a beaucoup soigné, ça m'a beaucoup aidé à continuer à grandir aussi. Et je pense que les rencontres ici que j'ai eues depuis que je suis arrivée, ça va toujours me marquer pour toute la vie.
Vous travaillez ici pour faire l'accueil, l'animation? C'est-à-dire?
L'accueil ici, c'est un accueil aussi très différent. Déjà, s'ils ne connaissent pas la maison, je présente la maison avec tous les ateliers, les animations, les consultations. Parfois, il y en a des personnes qui arrivent pour se poser un petit moment, pour boire un café ou pour lâcher un petit peu ses soucis. Donc, du coup, on prend les cafés ensemble, on se pose un petit moment aussi, je parle avec eux. Donc, c'est un accueil très différent parce que ce n'est pas juste de présenter quelque chose et de laisser la personne toute seule. C'est vraiment de partager et de rester avec la personne aussi pour la connaître un petit peu. Et alors, l'animation, c'est comme l'animation aujourd'hui justement qu'on est en train de vivre. C'est l'animation conviviale. Donc, il y en a plusieurs en semaine, pendant les vacances, il y a plusieurs sujets thématiques. Et donc là, je fais partie de l'animation, je mets les gens ensemble, on partage aussi entre nous.
Dans son jardin, Augustin va planter des fraises, Jean des carottes, Sylvie des potimarrons, Carole des framboises et Françoise des mûres.
Cet après-midi, il s'agit d'un atelier cuisine.
Alors, ce n'est pas un atelier juste cuisine. Cette animation aujourd'hui, c'est plutôt une animation que nous, on avait pensé avec une commission. Du coup, l'année dernière, avec mon arrivée, on a décidé de faire un voyage autour du monde. Chaque semaine de vacances scolaires, on faisait un pays différent. Et donc, du coup, cette année, on a choisi de changer ça et on a fait autour des saisons. Et donc là, c'est le printemps, donc chaque jour, c'est un sujet différent. Hier, c'était l'apiculteur, mardi, c'était la pêche et aujourd'hui, c'est le potager.
Tu veux planter quoi?
C'était Yann Barré pour Radio Valois-Mulcien. Nous étions à la Maison Barthélemy, un tiers-lieu basé dans le quartier de la Victoire à Compiègne, dédié aux familles et aux liens sociaux.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
L'homme élégant et soucieux de son confort exige le slip français.
Bonjour, vous écoutez Radio Campus Lille sur le 106,6 MHz ou sur le web www.campuslille.com, une radio sans publicité.
C'est ton sérieux qui t'oppresse, ta conscience qui te compresse. Tu ne veux pas que ça paraisse, tu stresses.
sert à tout ça? Tu ne dors plus sans Valium dans ta bière. T'es fou, tu ne feras plus marche arrière. Tu ne fais plus rien en souplesse. Ça t'aide à cacher les faiblesses du stress. Quand de nouveaux clients apparaissent avec leur beau sourire, leurs belles promesses, tu te réjouis que ceci t'engraisse. Tu stresses tes mestas. Il n'y a rien de tel pour toi pour t'empêcher de penser à tout ça. Tu ne dors plus sans Valium dans ta bière. T'es fou, tu ne feras plus marche arrière. Sans Valium dans ta bière, t'es fou, tu ne feras plus marche arrière.